Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Je mange paléo, ou presque. 50 recettes, sans gluten, ni lactose, ni sucre, ni produits transformés, pour retrouver la forme grâce au régime paléolithique ancestral. Son auteur Amandine Gers nous y propose des plats de Cro-Magnon. Mais pas de blague, c'est sérieux, on ne plaisante pas avec l'alimentation.
Alors non, c'est pas une plaisanterie. L'alimentation paléolithique, qu'on peut aussi appeler alimentation ancestrale, ça existe en tout cas déjà aux États-Unis depuis très 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 longtemps. Et ça s'inspire de l'alimentation de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, donc qui vivaient à l'époque paléolithique, c'est-à-dire avant, à l'époque où on était encore nomades, en fait, avant la sédentarisation et l'avènement de l'élevage et de l'agriculture. Donc voilà, c'est inspiré de l'alimentation des chasseurs-cueilleurs, donc une alimentation sans céréales cultivées, sans produits laitiers, puisqu'on ne prélevait pas le lait des animaux, très riche en végétaux frais à 70% et les 30% restants constitués de protéines très très variées. Hein. Ce n'est pas justement l'alimentation de l'homme de Cro-Magnon qui mange de la viande crue, c'est vraiment des protéines variées, ça peut être des œufs, ça peut être des coquillages et de la viande également.
Alors justement, qu'est-ce qui composait les repas de nos ancêtres et que vous nous proposez de remettre au goût du jour ?
Je ne propose pas de manger comme nos ancêtres dans le livre, mais de s'en inspirer. Dans le livre constitue un tableau très clair qui explique ce que mangeaient nos ancêtres et par quoi on peut le remplacer aujourd'hui. Donc par exemple, pour les sources de protéines, nos ancêtres mangeaient des insectes, des larves, des batraciens, des escargots, ce genre de choses qu'on n'a pas envie de manger aujourd'hui, mais qu'on peut remplacer par des sources de protéines, des viandes maigres, du poisson, des coquillages.
Et alors ce qui est très étonnant dans votre ouvrage, c'est qu'on y apprend que nos ancêtres paléolithiques mangeaient des algues, des insectes, comme vous venez de le dire, ce qui revient à la mode et ce que l'on a tendance à vouloir même pousser en raison d'une agriculture qui est un peu déraisonnée et d'un changement climatique imminent.
Les algues, on en mange plus maintenant, mais ça fait quand même assez longtemps que le mouvement macrobiotique utilise les algues. Et à l'époque paléolithique, les hommes qui vivaient près des côtes mangeaient tout ce qui était comestible. Donc il y avait beaucoup de choses qui se trouvaient directement dans la mer ou sur les côtes. Puis les insectes, oui, alors les insectes, je ne les ai pas intégrés dans mon livre, mais je sais qu'on mange de plus en plus d'insectes, enfin, que ça commence à devenir à la mode. Mais j'en propose pas dans le livre. Je propose vraiment des aliments qu'on peut trouver facilement aujourd'hui, même si on habite dans une ville. C'est pour ça qu'on a titré le livre « Je mange paléo ou presque ». Donc c'est vraiment inspiré de l'alimentation paléolithique, mais adapté à aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de batraciens. Par contre, il y a beaucoup de végétaux, soit issus de la cueillette, soit qu'on peut trouver dans les magasins. Et je le répète, des végétaux frais. C'est le mode alimentaire aujourd'hui qui comporte le plus de végétaux frais.
Ça se rapproche presque des crudivores.
Ça peut se rapprocher des crudivores, oui. Sauf que là, c'est pareil, j'adapte et j'utilise quand même des cuissons rapides au wok ou des cuissons à la vapeur douce, etc. Parce que encore une fois, le but, c'est pas de rentrer dans une norme et de se mettre à manger comme les hommes préhistoriques ou de manger tout cru ou de voilà. C'est vraiment adapté à tous. Donc, on peut être même pratiquement végétarien et s'inspirer du modèle paléo. J'ai d'ailleurs constitué tout un chapitre dédié aux plats végétariens parce que, je le rappelle, c'est beaucoup de produits frais, végétaux. C'est ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre, c'est la place de la fraîcheur dans l'assiette.
Et énormément d'avantages d'un point de vue de la santé. Vous nous expliquez que c'est un régime riche en calcium, qui est très équilibré.
J'ai écrit une introduction pour une fois qui est très très longue pour expliquer tout ça. Je parle du calcium parce que l'alimentation paléo ne comporte pas de produits laitiers et ça peut faire peur à certaines personnes qui pensent que le calcium, on le trouve uniquement dans les produits laitiers, ce qui est faux. Il y a beaucoup de sources végétales de calcium que je cite dans le livre.
Et bien sûr, c'est un ouvrage, comme toujours, pour ravir nos papilles avant tout. Ce n'est pas que pour la santé, c'est aussi pour le plaisir du goût. Est-ce que vous pouvez nous en donner la preuve avec une recette, celle de votre choix ?
Alors...
Il y en a plusieurs qui ont l'air très gourmandes, hein, mais je vous laisse libre de choisir celle que vous voulez.
On a les plats végétariens, on a les plats, un chapitre avec tous les plats à base de poissons, de coquillages et de crustacés. les plats avec viande et les desserts. Alors moi, je vais choisir un dessert parce que voilà, je vais faire la gourmande aujourd'hui de chocolat, ce qui n'est pas mon habitude. Mais les brownies paléo, voilà, c'est une petite merveille, c'est facile à préparer. On utilise de la poudre d'amande, de l'huile de coco, du cacao en poudre, du lait de coco et du miel d'acacia, et puis un œuf. Alors voilà, la préparation est très simple et on obtient une sorte de brownie, de quelque chose de très moelleux. Et voilà, c'est un petit clin d'œil. Évidemment, on ne mangeait pas de dessert au paléo, mais aujourd'hui, on peut se le permettre. Et vous aviez repéré quelle recette, Stéphanie?
Moi, j'étais plus dans les plats. Bon, c'est vrai que j'aime bien les desserts aussi, mais étant donné que je mange aussi de la viande et du poisson, il y avait plein de petits poissons frais un peu d'inspiration japonaise, on pourrait penser aujourd'hui.
Les makis ou
Par
les...
exemple, oui, le tartare de bœuf à la thaïlandaise, par exemple, c'est quelque chose, c'est très moderne, hein.
Le tartare de bœuf, alors ça c'est un tartare coupé, enfin on appelle ça le tartare au couteau, hein. Il n'est pas haché mais il est juste coupé au couteau. Alors il faut évidemment faire très attention au choix de la viande, choisir une viande de première qualité, bio. Voilà, et puis je l'ai associé avec des assaisonnements d'inspiration asiatique, la citronnelle, la coriandre fraîche, le citron vert, c'est délicieux.
Encore une fois, pour réussir vos recettes, la clé, ce sont les ingrédients les plus frais possibles.
Voilà, oui, les plus frais possibles et une grande, grande variété. Ne pas hésiter à mélanger dans une même assiette plusieurs types d'aliments différents, d'ajouter tous ces petits plus qui font à la fois l'esthétique de l'assiette, mais aussi l'apport nutritionnel et puis le goût. Voilà, ne pas hésiter à mélanger quelque chose de rajouter du cru dans le cuit, voilà, pour que ça croque. À chaque bouchée, on a des sensations différentes.
Oui, parce que vous nous proposez des huîtres, mais qui doivent avoir un goût particulier puisque vous les agrémentez de bergamote, par exemple.
Oui, pourquoi pas changer un peu quand on mange des huîtres avec un peu de vinaigre aux échalotes, ça casse un peu le goût de l'huître et puis on le mange toujours comme ça ou avec un peu de citron. Donc là, j'ai proposé plusieurs variantes avec du citron vert et du poivre blanc, même avec des petits dés de concombre ou du thym citron et de l'oignon rouge, des agrumes, un peu de mandarine et de l'aneth. Voilà, c'est des occasions en fait pour rajouter des choses. Agréable à manger et de diversifier notre alimentation.
Je mange paléo ou presque, un ouvrage signé Amandine Gers paru aux éditions Terre Vivante.